Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Coetchea de l'équipe Podcasting.
Oui, Kevin, je suis dans le hall de l'hôtel.
Podcasting vous propose aujourd'hui un numéro exceptionnel. Nous vous proposons de temps en temps des épisodes hors série où nous allons à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité du Sud-Ouest. L'action qu'il porte est symbolique d'un fait de société et représente une lutte en particulier. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec l'homme qui veut faire trembler la SNCF, mais pas que. Kevin Fermine a 30 ans, il est handicapé et poursuit la SNCF pour discrimination de ses voyageurs depuis 5 ans.
Je peux le pousser parce que...
Bien sûr, ça va ?
Oui, très
le
bien.
Le voyage était bon ?
La SNCF, toujours régale à elle-même.
De passage à Paris, le Toulousain nous accueille dans sa chambre d'hôtel à Magny-le-Hongre, en Seine-et-Marne, à deux pas de Disneyland. Avec lui, on va parler du regard des autres sur le handicap, des difficultés à vivre dans un monde qui n'est pas fait pour vous, de zèbres, d'activisme, mais aussi de violences faites aux femmes et aux enfants. Si ce sujet est trop difficile pour certaines auditrices ou auditeurs, je vous invite à ne pas poursuivre l'écoute. Kevin Fermine, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Kevin Fermine, j'ai 30 ans. Je suis de Toulouse, je suis né à Toulouse. Je suis une personne en situation de handicap depuis la naissance, suite au syndrome de Little, en fait. C'est une infirmité motrice cérébrale qui touche l'équilibre suite à une dégénérescence non évolutive des neurones. Suite à ça, je suis en fauteuil roulant depuis la naissance.
Alors Kevin, vous êtes né le 24 juin 1991 à Toulouse. Où avez-vous grandi plus exactement ?
J'ai grandi, disons, avec ma mère et aussi en institution de mon plus jeune âge, ce qui veut dire, je crois, 2 mois jusqu'à mes... 18 ans, c'est des institutions spécialisées où on fait et la partie scolaire et la partie rééducation due à mon handicap, kiné, orthophonie, ergothérapie, etc.
Quand vous étiez chez vous, quand vous étiez enfant, comment est-ce que vous vous déplaciez par exemple ?
Je ne peux pas tenir debout, je n'ai pas d'équilibre, je me déplaçais... Quand j'étais petit, principalement à 4 pattes, en fait. C'était pas une très, très bonne méthode selon mes kinés, selon les médecins et tout ça. Et ça m'a grandement aidé, en fait, de pouvoir marcher à 4 pattes et tout ça, en fait.
Par contre, l'appartement où vous viviez enfant avec votre mère n'était déjà pas adapté, selon vous ?
En effet, l'appartement où je vivais avec ma mère était en premier étage. Sans ascenseur, ce qui veut dire qu'il fallait constamment me monter et me descendre de l'appartement. En plus, j'avais un fauteuil, donc il fallait monter et aussi le fauteuil. On ne pouvait pas le laisser dans la cave parce que il fallait que on avait peur qu'on nous le vole. Donc il fallait le monter chaque matin et chaque soir, en fait.
Dès les premiers mois de votre vie, vous avez été en institution, donc ça veut dire que vous alliez à l'école à moitié et vous étiez à moitié suivi d'un point de vue de santé, c'est cela ?
Même si au primaire, à Paul de Thun, à Ramonville, en fait, ils mettaient la priorité sur la rééducation. Et d'ailleurs, je le vois parce qu'il y a certains de mes camarades qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre le système scolaire parce qu'on leur a trop, en quelque sorte... dit qu'ils n'y arriveraient pas et on leur a conçu un programme pour eux. Cette institution, j'en ai un regard de plus en plus critique, en fait.
À partir de l'âge de 8 ans, votre mère vous inscrit à l'internat pour vous protéger de son conjoint, à l'époque. À quoi ressemblait-il, cet homme ?
En fait, cet homme, c'était, appelons un chat, un pervers narcissique. Ce qui veut dire qu'il avait un double visage, en fait. Voilà, il pouvait paraître très sympathique par l'entourage, par les amis et tout ça. Et une fois, disons, dans le cadre familial très restreint, alors là, voilà, ça pouvait dégoupiller à tout moment, en fait. Et c'était à peu près toutes les 3 semaines qu'il y avait une crise, un pétage de plomb, où on ne savait pas pourquoi il se prenait la tête et tout ça. Disons, ça menait à des actions de violence, en fait, de sa part.
Cet homme, justement, a été violent avec votre mère, mais il a aussi été violent avec vous.
Oui, il a été violent avec moi. Et c'est vrai qu'il a été principalement violent avec ma mère. Mais après, je vous dirais que, voilà, être violent avec ma mère, c'est aussi être violent avec moi. Parce que moi, psychologiquement, ça a été un véritable enfer aussi. Donc, c'est ma mère qui prenait principalement les coups, même si moi, j'ai subi d'autres sévices, voilà, d'une manière psychologique, c'était un véritable enfer, parce que moi, je m'inquiétais très grandement pour ma mère, en fait.
Un soir, alors que vous avez 10 ans, l'ex-conjoint donc, de votre mère, puisqu'elle s'en est séparée de cet homme, l'ex-conjoint de votre mère débarque chez vous, et chez elle, donc, que s'est-il passé ?
Il menaçait ma mère... Voilà, comme il avait déjà fait à plusieurs reprises, de la taper, et même peut-être plus, en fait, de la tuer, en lui disant « cette fois ou moi qui vais mourir », en fait. Il y en a tellement eu de soirs comme ça, où il est venu, où ça aurait dû bien se passer, à la base, et qu'au final, c'est parti dans des extrêmes, où il, avec des menaces, avec des coups, avec des violences verbales, voilà, c'est... C'est très compliqué quand on est enfant, disons, de vivre ça, en fait. Donc, c'est sûr que quand on a 10 ans, de toute façon, je n'avais pas le choix. J'ai appelé mon grand-père et mon grand-père en voulant me défendre et en voulant défendre aussi toute ma famille. Disons, mon frère qui avait 4 ans et demi et ma mère, voilà, ils se sont battus et... Ça s'est mal terminé pour mon ex-beau-père, en fait.
À la suite de ça, votre grand-père a dû aller en prison, c'est ça ?
Oui, mon grand-père, disait, il a pris 5 ans de prison. Il en a fait 2,5 avec la remise de peine et la liberté conditionnelle, en fait.
C'est beaucoup à vivre pour un enfant de 10 ans, tout ça.
J'ai conscience quand même que j'ai vécu une vie assez particulière et je sais que tous les enfants ne vivent pas ce genre d'événements. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, au contraire, ces événements, ils m'ont fait plus que grandir, en fait, et ils m'ont permis de me questionner encore plus sur la vie, sur les problèmes de société, en fait.
Au lycée, en classe de seconde, vous décidez de changer de classe. Pourquoi ce choix ?
Dans mon lycée spécialisé, où je faisais et la rééducation et le temps scolaire, je me sentais un peu oppressée. J'avais besoin de voir autre chose, parce que j'ai toujours eu l'impression, dans cette institution, d'être dépossédée de ma vie, en fait, parce que j'avais l'impression que je ne me connaissais plus, en fait, et que ces professionnels, ils me connaissaient mieux que moi, en fait. Et c'est ça qui est difficile. C'est quand vous pensez quelque chose et qu'on vous dit « Ah non, c'est pas comme ça, tu te trompes », on te fait perdre toute ta confiance, en fait. Aujourd'hui, je me bats contre ces institutions. Et d'ailleurs, la France, elle a été condamnée très récemment encore par les Nations Unies pour sa politique du handicap et plus particulièrement sur sa politique d'institutionnalisation des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je me bats pour que toutes les personnes, handicapées ou pas, elles puissent mener leur vie comme elles le souhaitent, en fait. Et je ne veux pas que, disons, je ne veux pas, je ne suis pas le bon Dieu, hein, mais je souhaiterais qu'en quelque sorte, on comprenne que chaque personne, handicap ou pas, eh bien, puisse mener sa vie comme il le souhaite, manger, dormir, voilà, à telle heure, rencontrer telle personne, avoir une vie sexuelle, tranquille, sans devoir rendre des comptes à ces éducateurs qui ont souvent aussi un problème parce que on est constamment dans le jugement. Et moi, bah après, je parle qu'avec ma propre vision des choses, comme moi je l'ai vécu, mais moi, j'ai toujours eu l'impression d'être jugé. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que ces jugements, ils m'ont absolument pas aidé, en fait. Au contraire, ils ont nui grandement à mon avancée, à mon... parce que franchement, j'ai perdu beaucoup de temps à avancer, parce que pour moi, je considère que ces professionnels éducateurs, ils sont là pour nous aider à avancer, pour construire notre vie, en fait, telle qu'on veut qu'elle soit. Il faut se dire que les personnes, avant d'être des personnes en situation de handicap, c'est des êtres humains, en fait. C'est une différence telle qu'une autre, en fait. Notre société a un réel problème avec ça. Parce que, en quelque sorte, aujourd'hui, on passe, disons, les personnes en situation de handicap, la vision du handicap de la France, c'est une vision charitable et misérabiliste, en fait. Et moi, je n'ai pas envie de passer ni pour un misérable, je n'ai pas envie de passer pour un super-héros, parce que, par exemple, quand on voit aussi comme la secrétaire d'État, Madame Sophie Cluzel, qui passe son temps sur les réseaux sociaux à dire il faut reconnaître le talent de ces personnes en situation de handicap. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut juste nous apprécier à notre propre valeur.
Comme vous étiez peu satisfait de l'institution, vous avez voulu vous intégrer à une classe dite normale, c'est-à-dire générale, avec une trentaine d'élèves. Comment ça s'est passé ?
J'ai suivi ce dispositif avec plusieurs de mes camarades en situation de handicap. Moi, mes objectifs à moi étaient de m'intégrer à la classe de valide, en fait, la classe classique, pour essayer de m'épanouir. Je me considère comme un véritable citoyen. Et seulement mes camarades en situation de handicap, ils n'avaient absolument pas l'intention de s'intégrer. Et j'étais un peu le vilain petit canard, que peut-être qu'il y avait aussi une certaine jalousie, parce que j'avais peut-être les capacités à aller vers les autres, à aller construire un dialogue avec les autres, et que eux, ils avaient peut-être un problème, ils avaient peur, ou je sais pas. Ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que, en quelque sorte, ils ne me donnaient pas la possibilité de faire mes choix, en fait.
Ils vous ont empêché de vous intégrer ?
Ma classe de seconde en intégration en UPI, disons, c'est le nom du système, a été un véritable enfer. Parce que, en fait, dès le matin, ils me faisaient subir des moqueries, ils se moquaient de moi. Au départ, ça a commencé avec peu de personnes. Et au final, après, ils ont ramené plusieurs personnes en allant parler sur moi. Et ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu faire mes choix, parce que j'aurais voulu faire mes propres expériences. Ça veut dire aussi que j'aurais pu me tromper, en fait. S'il faut...
Vous vous attendiez à du harcèlement de la part d'autres élèves en situation de handicap ?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on peut s'y attendre, parce que de toute façon, un harcèlement, on ne s'attend jamais à ça. Elles ont su peut-être m'analyser et comprendre où étaient un peu mes faiblesses. Et après, elles ne sont pas totalement responsables de ma dépression qui a suivi. La fatigue et tout ça, se retrouver d'une classe de 9 à une classe de 35, c'est énormément éprouvant, parce que c'est hyper fatigant. On se levait chaque matin à 6h, on rentrait à 18h le soir. Donc il y avait de la fatigue. Donc la fatigue plus le harcèlement, j'ai totalement fait une dépression qui a duré à peu près un an, en fait.
Cette dépression, vous en êtes sorti comment ?
Disons, on va dire que là, encore une fois, je comptais sur les professionnels pour m'accompagner et pour comprendre mon mal-être, mais j'ai été déçu du voyage, parce que je parle des éducateurs principalement, des professeurs qui nous ont accompagnés aussi, parce qu'il y avait quelques professeurs qui étaient inclus au dispositif. Puis après, il y avait la psychiatre de l'institution, il y avait tout ça. Et malheureusement, ces gens, en fait, ils n'ont pas pris conscience suffisamment tôt de mon état, en fait. Je les ai alertés suffisamment tôt. Et je leur ai dit, que ça allait plus, que ces moqueries, je ne les supportais plus. Je pétais les plombs, en fait. Et malheureusement, ils ont un peu dédramatisé la chose en disant c'est pas grave, et même en rigolant un peu de cette situation en fait. 3 mois plus tard, eh bien, ils se sont réellement rendus compte que j'étais vraiment à bout du bout en fait, et qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que sinon ça allait exploser en fait. Et voilà. Donc après, ils ont fait des réunions de crise. Je me suis retrouvé 10 jours dans une clinique psychiatrique parce que, voilà, bon, après, c'est vrai, j'avais besoin de couper. Après, la clinique psychiatrique, c'était pas trop la solution non plus parce que...
Pourquoi c'était pas une solution, l'hôpital psychiatrique ?
Ben parce que moi, je croyais qu'un hôpital psychiatrique, on allait pouvoir m'aider, que j'allais pouvoir verbaliser, pouvoir échanger. Mais j'ai été fortement déçu de voir... C'était pas ça du tout, en fait. Moi, on m'a placé dans une chambre en me shootant avec des médicaments. Ce passage en clinique psychiatrique a été mon meilleur remède parce que dès le moment où je suis entré dans cette structure, j'ai voulu en sortir. Et même, voilà, il m'est arrivé un jour une anecdote, on va dire, voilà. Il y avait ma psychiatre, parce qu'on a des psychiatres référents, en fait, ils viennent un quart d'heure par jour le matin pour voir comment on va, enfin voilà, pour ajuster le traitement, plus pour parler. Une fois, ma psychiatre référente, elle était en congé, donc c'était un remplaçant qui est venu dans ma chambre, et alors il rentre dans ma chambre, « Bonjour monsieur », alors il commence à regarder sa grille, il me dit « Alors, est-ce que vous entendez des voix ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Voilà, est-ce que vous voyez des formes ?» Bon, enfin voilà, j'ai vite compris qu'il me décrivait un peu les signes de schizophrénie et tout ça. Alors je lui ai dit « Écoutez monsieur, je pense que vous vous êtes trompé de dossier ». Je vous conseille, vous ressortez de la chambre, vous reprenez le bon dossier et vous revenez me voir quand vous l'aurez trouvé. Et bon, il a pas très bien apprécié parce que voilà, mais de toute façon, à un moment donné, j'ai été obligé de simuler en quelque sorte, même si ça allait pas très toujours pas bien, mais j'étais obligé de simuler en faisant croire que j'allais très bien, que voilà, c'était pour pouvoir en sortir parce que je là encore, c'était un véritable enfer. Je ne voyais pas d'issue, disons. J'étais vraiment pas bien. Et moi, j'aurais eu vraiment besoin de pouvoir échanger, en fait.
On a parlé d'institutions, on a parlé d'hôpital psychiatrique. Je sens beaucoup de déception vis-à-vis des professionnels de santé et de l'éducation qui vous ont accompagné. Je reviens notamment sur le thème de l'école. Je crois que vous aviez un projet en tête bien précis. C'était celui d'embrasser des études de droit et donc faire un bac général. Comment ça s'est passé ? Est-ce que cette idée a été bien reçue ?
Cette idée de vouloir faire du droit, je l'ai eue très très tôt. Combattre contre les injustices, c'est un peu ma raison de vivre, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Je suis allé voir la conseillère d'orientation, j'ai répondu à ces grilles évaluatives, voilà, qui pour moi, encore désolé de dénigrer le... Voilà, mais qui n'avait pas énormément de sens, parce que voilà, elle me disait « Ah mais non, il faut que vous fassiez un travail dans le social ». Mais pour moi, de toute façon, le droit, c'est aussi du social, même si on pourrait discuter aujourd'hui du véritable social qu'il y a dans le droit, mais bon. À part ça, je veux dire que c'est vrai que dès la sixième, j'ai eu des professeurs, des éducateurs et tout ça qui se sont opposés à ce projet d'études. Et si je les avais écoutés, aujourd'hui, je ne serais pas en licence 3 de droit. Je serais je ne sais pas où. J'ai toujours besoin de me fixer des challenges et tout ça, en fait.
Et justement, un objectif que vous étiez donné, c'était la première année de droit. Donc, vous avez eu votre baccalauréat littéraire, quand il existait encore. Comment ça s'est passé cette première année d'université ? C'était à Toulouse, c'est ça ?
On sort d'une institution et on se rend compte qu'on est dans la vraie vie. Et on se rend compte que la vraie vie, c'est très compliqué pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes différentes. Ce qui veut dire que je n'avais pas de preneur de notes. Un preneur de notes, c'est quelqu'un qui est censé me donner des cours, en fait, voilà, parce que je ne peux pas les prendre tout seul, parce que voilà, ça me demande trop de travail et c'est trop compliqué pour moi, en fait. En 2012, quand je suis allé à l'université, ce dispositif n'existait pas, en fait. J'ai dû me battre encore une fois pour que les choses avancent. Normalement, c'est la loi de 2005 qui prévoit toutes ces mesures. Donc.
L'année suivante, vous déménagez à Montpellier pour recommencer une première année d'études de droit. Et là-bas, vous êtes accompagné d'un preneur de notes. Mmh. Pendant un an, vous devez souvent prendre le train pour rentrer à Toulouse. Mmh. Comment ça se passe ?
Je suis confronté à l'inaccessibilité de la SNCF. Je suis placé dans des trains qui sont que très peu accessibles, où je ne peux pas accéder aux toilettes, où je ne peux pas accéder à la voiture bar pour me restaurer, où je suis placé parfois dans un garage à vélo, où je suis placé parfois en plein milieu d'une allée, empêchant tous les autres passagers de passer, voilà, ce qui les oblige de m'enjamber, donc c'est pas hyper confortable. Et même une fois, j'ai dû m'uriner dessus, parce que je n'ai pas pu accéder aux toilettes, donc voilà, c'est assez humiliant en fait de se retrouver dans cette situation. Un peu comme une marchandise. Je me sens un peu... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me sens pas être humain en fait. Je me sens totalement un objet peut-être. Voilà, tenez, on va vous mettre là parce qu'il n'y a pas de place. Et même, ce n'est pas très très confortable. J'ai l'impression d'être le gardien à vélo en fait. C'est un peu angoissant de se retrouver seul dans un... Dans un parc à vélo, parce que voilà, on se dit il y a un vélo qui peut tomber, ou alors je préfère être si possible avec les autres passagers en fait.
En 2016, vous décidez de porter plainte contre la SNCF. Quel a été le déclic ?
J'ai à plusieurs reprises tenté de communiquer avec la SNCF en leur demandant de faire le nécessaire pour pouvoir me donner la possibilité de voyager dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pouvoir accéder aux toilettes et pouvoir, voilà, ne serait-ce que, même si je ne peux pas monter à la voiture bar, voilà, parce que ça aussi, j'en ai conscience, qu'on ne peut pas instaurer l'accessibilité en claquant des doigts. Le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit, beaucoup de com, en fait, en disant, voilà, on va faire, mais on ne fait pas. Donc, j'ai essayé de communiquer avec la SNCF, et la SNCF, voilà, a été sourde, parce que la SNCF s'appuie sur des textes législatifs, certes, qui lui donnent l'autorisation jusqu'en 2024 pour se mettre en accessibilité, mais la SNCF oublie. Et peut-être que je devrais dire aussi la France. Certes, il y a des textes législatifs, mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Donc, on va dire que ne pas pouvoir accéder aux toilettes, que ce soit en 2016 ou en 2024, c'est la même chose, c'est le même résultat, en fait.
Pourtant, le handicap touche en France 12 millions de personnes. On compte 850 000 personnes handicapées moteurs. Et parmi elles, plusieurs centaines de milliers de personnes sont en fauteuil roulant, comme vous, Kevin. Mmh. Il existe pourtant une loi datant de 2005, une loi qu'on appelle pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est censée assurer l'accessibilité dans tous les domaines de la vie sociale, l'éducation, l'emploi, les bâtiments et les transports. Mmh. Elle ne vous paraît pas suffisante, cette loi ?
C'est pas qu'elle ne me paraît pas suffisante, c'est qu'en fait, elle n'est pas appliquée, cette loi. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'en quelque sorte, la loi existe, elle est belle, elle est jolie. Mais si personne ne l'applique, voilà, elle sert à rien, en fait. Il y a à peu près 40 ans que la question du handicap stagne en France. Par exemple, l'ordonnance du 26 septembre 2014, qui a donné des délais plus larges pour se mettre en accessibilité, c'est un peu une ordonnance de la honte, parce qu'en quelque sorte, ça veut dire que en 2014, on se réveille et on se dit « Ah, l'échéance, c'est de... » Parce qu'en fait, la loi de 2005, elle donnait 10 ans à la France, ce qui veut dire qu'en 2015, au 1er janvier 2015, tout devait être accessible en France. En 2014, sous le mandat de François Hollande, ils se sont réalisés qu'en fait, on était très, très, très loin du compte et qu'on n'y arriverait pas. Donc, voilà, ils ont fait une ordonnance en donnant des délais supplémentaires allant jusqu'en 10 ans. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est encore très, très loin du cas. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la SNCF, elle va encore redemander un délai supplémentaire. Alors là, je ne sais pas sur quoi elle va se fonder. Elle va peut-être se fonder sur la crise sanitaire. Voilà, voilà, ça sera la bonne excuse. Bon, il faut arrêter au bout d'un moment de nous prendre pour des imbéciles.
D'ailleurs, en 2019, la Cour d'appel de Toulouse condamne la SNCF pour conditions indignes de transport. Mais en 2020, la Cour de cassation annule la condamnation. Le 8 octobre dernier, vous aviez rendez-vous devant les juges de la Cour d'appel de Bordeaux. Comment cela s'est passé ?
On ne peut jamais savoir, disons, parce qu'on va dire que là, c'est mon avocat qui a plaidé. Donc voilà, moi j'étais là juste, je veux dire, un simple figurant. Non, je suis l'acteur principal de cette procédure. Mais n'empêche que je veux pas forcément que la SNCF me soit condamnée à 20 000 euros. Ça, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est qu'on reconnaisse mon statut de victime. Et même si la SNCF me donne 1 euro symbolique, je serai très satisfait. Parce que ça voudra dire qu'en quelque sorte, qu'on aura reconnu que ma situation de victime et que ces voyages dans ces conditions ne sont plus possibles en fait. Et d'ailleurs, c'est pour moi, mais c'est aussi pour mes camarades. Et c'est bien pour ça le problème. Si ils condamnent la SNCF aujourd'hui, et bien demain, il y a certaines de mes camarades voilà, qui pourront attaquer la SNCF sur les mêmes fondements que moi. Et le truc, c'est que si la SNCF a été déjà condamnée, ben ça sera d'autant plus facile pour la recondamner voilà, une seconde fois, une troisième fois. Ouais, et ça peut aller loin. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça bloque. J'étais assez satisfait des 5000 euros de dommages et intérêts que m'a attribué la Cour d'appel de Toulouse voilà, pour atteinte à ma dignité. Mais le problème, c'est que la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point-là. La réflexion de la Cour de cassation a été que, en fait, comme la SNCF prévoit un schéma directeur et voilà, des échéances bien précises, eh bien, il n'y aurait pas atteinte à ma dignité. Alors ça, j'ai un peu de mal à comprendre aussi, parce que vous prévoyez de plus porter atteinte à ma dignité demain ou après-demain, ça veut dire qu'en quelque sorte, on oublie les choses du passé, qu'on pouvait atteindre à ma dignité, que ce n'était pas considéré comme tel. Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que voilà, c'est des faits, c'est, voilà, de suriner dessus, c'est quand même humiliant, en fait.
Au-delà de la SNCF, il n'y a pas un problème plus général et même mondial quand on voit qu'une ministre, la ministre de l'énergie israélienne, Karin Elarar, a été refoulée aux portes de la COP26 à Glasgow. Le problème n'est-il pas plus général ?
Ben, ça montre bien qu'en quelque sorte, le validisme n'a pas de frontières et qu'en quelque sorte, c'est le monde entier qu'il faudrait qu'ils aient une autre vision et voilà, qu'ils considèrent un peu plus les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'il y ait une ministre qui s'est en fauteuil roulant et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, au poste politique, il y a très peu de personnes en situation de handicap. Et donc, il faut que les choses changent, il faut que les mentalités évoluent. Le handicap est perçu comme quelque chose de mal, comme quelque chose de mauvais. Et ce qu'arrive pas à comprendre la France, c'est qu'en quelque sorte, le handicap et l'accessibilité, c'est positif, en fait. Imaginez-vous une société totalement accessible, ça veut dire que ça enlève énormément de handicap, en fait. Et qu'en quelque sorte, on efface le handicap en rendant la société accessible, en fait.
Le 28 octobre 2018, vous changez de style, vous décidez de changer de méthode. Qu'est-ce qu'il se passe ce jour-là ?
Avec l'association Handi Social, j'ai décidé de bloquer un train de la SNCF suite à des travaux de la gare Toulouse-Matabiau que nous avions demandé et qu'on nous avait refusé. Donc nous avons décidé de mener une action de désobéissance civile et on a dit, eh bien, comme on ne nous écoute pas de toute façon, eh bien, on va bloquer un train et là c'est un TGV de Toulouse à Paris, on s'est mis sur les rails et on a bloqué le train pendant une demi-heure. En fait le truc c'est qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on n'est plus écouté en fait. On n'est plus écouté et c'est ça qui est triste. Aujourd'hui, il faut toucher au portefeuille, en fait. Il faut toucher au portefeuille de ces grandes entreprises qui se croient tout permis, qui se croient les reines du monde, en fait, et leur dire et coucou, on est là, en fait. Et on a même été poursuivis en justice suite à ça. Voilà, j'ai pris 4 mois de prison avec sursis, plus des amendes et tout ça. Mais en définitive, les travaux ont été faits. Il n'empêche qu'ils étaient prévus pour 2024, les travaux. Donc ça veut bien dire qu'avec la pression, ça marche quand même.
2 mois plus tard, vous mettez de nouveau la pression. Toujours en 2018, vous préparez une nouvelle action. Cette fois-ci, vous visez l'aéroport Toulouse-Blagnac.
Oui, alors là, c'était une grosse action. On avait du mal à y croire nous-mêmes. Comment pouvons-nous imaginer pouvoir rentrer sur les pistes de l'aéroport à une semaine après les attentats de Strasbourg, hein, surtout.
Quel était l'objectif ?
En fait, l'objectif, c'était toujours le même, mettre la pression au pouvoir public, mettre la pression à la société pour dire, en quelque sorte, leur faire un coucou, nous sommes là. Et l'objectif aussi, c'était de dénoncer la loi Elan qui a divisé par 10 et de rendre seulement 10% des logements accessibles. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, on lutte contre une société qui est gouvernée par des lobbies, en fait. Cette réduction à 10% de logements accessibles, maintenant, suite à la pression, à 20%, en fait, elle est passée. C'est dû aux lobbies du bâtiment qui ont plus de pouvoir que les véritables citoyens, en fait.
Le 19 mai dernier, vous êtes condamné à 4 mois de prison avec sursis et près de 2000 euros d'amende et de dommages et intérêts. Mais vous continuez à porter plainte et dernièrement, vous avez porté plainte contre la société prestataire d'aide à domicile qui vous suit. Pour quelle raison ?
J'ai été viré un peu comme malpropre, disons, apparemment parce que je me plaignais trop. Voilà, pour moi, je considère que je me plaignais pour des bonnes raisons, pour des problèmes de planning, pour des annulations au dernier moment.
C'était quoi le problème ?
Ben, le problème, c'était qu'en quelque sorte, on pouvait m'appeler 2 heures... 2 heures avant l'intervention et me dire on vous a changé, on vous a mis à 21h ce soir au lieu de 20h, ou alors des retards d'intervenants fréquents, ou alors des intervenants pas qualifiés. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que, en fait, ces sociétés prestataires d'aide à domicile, elles ont un devoir de mettre, au service des personnes qui font appel à elles. Des personnes qualifiées. Voilà, bon, après, ça peut arriver, les imprévus. Mais quand c'est tout le temps, j'ai conscience des difficultés que rencontrent ces entreprises de recrutement. Mais il faut se dire aussi que c'est pas pour rien, en fait, si elles rencontrent ces difficultés. Si, par exemple, les auxiliaires de vie étaient plus reconnus en France, si on les payait davantage, si elles faisaient pas 50 km par jour en étant payées des cacahuètes, voilà, ça. Elles auraient plus de plaisir à aller au travail, il y aurait moins d'arrêts maladie, ça serait plus serein pour tout le monde, en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces sociétés, elles sont souvent gérées par des gens qui n'ont rien à faire dans ce secteur, en fait. Parce qu'il faut se dire quand même que ces sociétés et ces associations prestataires d'aide à domicile sont avant tout quand même pour traiter dans de l'humain, en fait. On est des êtres humains, donc voilà. Et malheureusement, ces dirigeants, c'est plus souvent des financiers que des véritables personnes qui ont travaillé dans le social.
Aujourd'hui, vous avez 30 ans, vous êtes étudiant en 3e année de licence à Toulouse. L'apprentissage est long, mais vous avez énormément appris sur vous. Racontez-nous.
C'est sûr que les épreuves font grandir. Je ne suis plus la même personne que j'étais à 12, même à 18. Voilà, je grandis au fur et à mesure de la vie, en fait. On me dit, ah, mais tu es trop négatif, ah, mais tu es toujours pessimiste, ah, tu ne vois qu'à travers ton handicap. Et ce genre de réflexion, j'ai du mal à l'accepter parce que je me considère pas négatif, je me considère pas pessimiste. C'est simplement que c'est sûr que je vais pas dire le ciel bleu, les oiseaux chantent, voilà. C'est toujours un peu bizarre de se sentir en décalage, toujours un peu dans un monde, voilà, à vouloir faire le justicier. Voilà, je me sentais tellement en décalage qu'au bout d'un moment, j'ai cherché par moi-même pour essayer de trouver des solutions. Et je suis tombé sur quelques vidéos sur YouTube qui dressaient les portraits des personnes zèbres, voilà. Je préfère utiliser le terme zèbre que HPI.
Ça veut dire quoi, zèbre et HPI?
Alors, un zèbre et HPI, c'est la même chose. Hein. C'est en fait haut potentiel intellectuel, en fait. C'est juste une manière de penser qui est différente des autres personnes, en fait, des normopensants. Bon, voilà, j'aime pas trop utiliser ce terme, je trouve que c'est des termes... Voilà, et en plus, c'est des termes que les gens ne comprennent pas trop, parce que quand vous dites, par exemple, à quelqu'un « je suis HPI au potentiel intellectuel », il croit que vous vous la pétez, alors que c'est absolument pas du tout la question, parce que c'est pas absolument pas du tout le cas, parce qu'au contraire, on n'est pas en train de se la péter, on est juste en train de dire qu'on est différent et qu'on voit et qu'on pense et qu'on voit les choses différemment, en fait. Ça ne veut pas dire qu'un HPI doit avoir forcément 18 de moyenne, en fait. Et c'est bien ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut mettre toutes les personnes dans des cases. C'est pour ça que dire que je suis HPI, ça ne m'avance pas à le dire forcément, parce que ça m'aide plutôt pour moi pouvoir avancer sur moi-même, mais je veux dire que dans la rue, voilà, on est tous égaux, en fait.
C'est comme votre dyspraxie, c'est mieux de le savoir pour mieux vous appréhender?
Oui, après, la dyspraxie, c'est un peu différent, parce que le problème de...
Qu'est-ce que c'est, la dyspraxie?
C'est lié à mon handicap, c'est quelques retards, disons, j'aime pas utiliser ce terme retard, c'est un fonctionnement cérébral qui est peut-être... qui apporte quelques difficultés dans la réalisation des troubles moteurs et tout ça, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir identifier ces problèmes, disons plutôt ces difficultés, parce que, ouais, pour moi, il n'y a pas de problème, mais c'est plutôt des difficultés ou ces différences, je dirais même, parce qu'en les identifiant, eh bien, on peut les prendre en compte et après, on peut faire en sorte d'avancer avec, en fait.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Et j'espère vraiment qu'un jour, on verra le résultat de certaines de mes luttes ou de nos luttes, en fait, et que la société prenne conscience des réelles difficultés que nous rencontrons au quotidien et qu'elle se mette un peu à jour et qu'elle ne se dise pas « Tiens, ces petits pauvres handicapés, voilà... » Par exemple, hier ou avant-hier, c'était la journée de la gentillesse en tout ça. J'ai vu, par exemple, des gens dans les médias poster des photos en disant voilà, regardez ces super-héros. Moi, je supporte pas ce genre de choses parce que, en quelque sorte, on prend le problème totalement mal, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on voit des personnes en situation de handicap comme des super-héros, comme des misérables.
Merci Kevin Farmin, c'est la fin de cet échange avec Podcasting. Merci pour votre temps.
Merci Myrène Garay-Coetchea, c'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.